Sur vos programmes, il était donné comme titre à ce message en venant, il a suscité l'étonnement. Bien sûr qu'il est question de Jésus en venant, et je pensais à ça qu'il y a deux jours, il y a des millions de personnes qui ont fêté Noël, et pour beaucoup sans vraiment avoir connaître le sens premier de Noël. Et c'est vrai que je remarque que, des fois les choses tendent à un peu à nous éloigner du sens premier de Noël. Et j'aimerais qu'on puisse là, dans quelques instants là, faire un petit retour à l'essentiel en lisant dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc au chapitre 2. À partir du verset 8, Luc chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point ». Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Amen. Et comme j'ai donné ce titre-là, en venant, il a suscité l'étonnement. Et on voit le dernier verset, hein, verset 18, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. 12 ans plus tard, Jésus vient de naître et il y a l'étonnement qui est là, 12 ans plus tard, alors qu'il y a eu la fête de la Pâque. Vous savez que les parents, Jésus, sont repartis, et en cours de chemin, ils ont remarqué que Jésus n'était pas avec eux. Et là, faisant demi-tour, au verset 46 du même chapitre, hein, de l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 46, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ?» Oui, c'est ça, as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Amen. Comme je le disais, dès sa naissance, il a suscité l'étonnement. 12 ans plus tard, ses parents arrivent là, ils le trouvent là, avec les docteurs de la loi, il les entend, il répond, il leur pose des questions, et ils sont là, ils sont dans l'étonnement, et on va le voir, que aussi durant sa vie, Jésus a suscité l'étonnement. Regardez avec moi dans Marc, au chapitre 6. Marc, au chapitre 6. Au verset 2, il nous est dit « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier ?» Le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Il était pour eux une occasion de chute. ils étaient étonnés au verset 2 en l'entendant. Pourquoi? Parce que ils le connaissaient. Ils le connaissaient. Ils connaissaient sa profession. Ils connaissaient sa famille. Ils l'avaient vu grandir. Ils l'avaient vu grandir. Je me rappelle, il y a quelques temps de cela, il y a l'un de mes frères, mon frère cadet, qui est en région parisienne. Il y avait une de mes tantes qui était donc de passage là. Ils venaient du Congo. Ils venaient voir leur fille qui avait accouché. Mon frère est allé les voir, est allé les rencontrer. Et j'étais au téléphone avec ma tante et en parlant, elle me disait, j'ai vu ton frère. Elle dit, j'ai vu ton frère et elle me dit, j'ai été étonné. J'étais étonné. Je dis, pourquoi? Elle dit, oui, mais j'étais étonné de voir un grand comme ça, un grand gaillard, etc., un homme et tout cela. Et je dis, mais oui, mais elle dit, mais la dernière fois que je l'avais vu, elle dit, il avait 3 ans. Et là, mon frère, il en a 27. Donc vous pouvez vous imaginer bien sûr l'image qu'on a d'un enfant de 3 ans, bien sûr, et là un homme de 27 ans, elle était 24 ans que elle ne l'avait pas vu, mais le Jésus qui est là, eux ils l'ont vu, c'est pour eux le petit Jésus qui courait, qui jouait certainement avec leurs enfants. C'était pas quelqu'un d'ailleurs, mais quelqu'un du milieu d'eux, comme on dit aujourd'hui, c'est Jésus, c'était l'enfant du pays. C'était l'enfant du pays, l'enfant du quartier. Ils étaient étonnés en l'écoutant. D'où lui viennent ces choses? Ils disaient, mais il n'a pas été à l'école rabbinique. Il n'a pas, aujourd'hui on dirait, il n'a pas été à l'ITB, à l'Oignon. Il n'a pas étudié la théologie pendant 3 ans. Comment d'où lui viennent toutes ces choses? Où a-t-il appris ça? Qui lui a appris ça? Étonné. Parce que, et nous-mêmes à notre place, on allait voir que nous-mêmes, à leur place, nous aurions été certainement aussi étonnés. Pourquoi? Parce que si on voyait un homme d'une trentaine d'années, l'âge qu'il a à ce moment-là, Jésus, l'homme d'une trentaine d'années que vous avez vu depuis tout petit, vous l'avez vu lui grandir. Et puis, cet homme-là, qui est devenu homme, il se met à enseigner des choses du royaume de Dieu. Mais vous le direz, mais il sait de quoi il parle. Vous le verrez parler avec une telle assurance, un aplomb, une profondeur. Et c'est ce même homme que vous avez vu petit, il commence à faire des miracles. Il commence à guérir les gens. Il touche les lépreux, ils sont guéris. Les aveugles commencent à voir. Les sourds entendent, etc. Vous l'avez vu tout petit. Certainement qu'il y aurait eu de l'étonnement. Jésus, en venant, a suscité l'étonnement. Et on voit également que lui-même, a été étonné. Regardez au verset 5. Verset 5, il est dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Lui-même, Jésus a été étonné. Il s'étonnait de leur incrédulité. Alors, pour aller un petit peu plus loin, il était étonné parce que il se disait, mais après tout ce qu'ils ont vu, après tout ce qu'ils voient, ils ne croient toujours pas. Il était étonné. Regardez avec moi un peu plus loin au verset 45 de l'évangile de Marc, chapitre 6, au verset 45. Il est dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marcha sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis, il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Amen. Et là, j'aimerais m'arrêter là quelques instants sur ce passage. Les disciples qui le côtoyaient, eux aussi, à un moment donné, ont été étonnés de ce qu'ils ont vu. Là, il est question du miracle de Jésus marchant sur les eaux. Et ce miracle est relaté dans 3 évangiles, dans Matthieu, dans Marc et dans Jean. Mais il y a des détails, on va le voir, qui ne paraissent pas dans Matthieu, qui paraissent dans Marc, etc. Et on va recouper tout ça pour bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Les disciples, là, sont dans une situation difficile. Ils sont seuls, Jésus n'est pas avec eux, alors que dans un autre épisode, rappelez-vous, hein, ils sont dans la barque, et Jésus est dans la barque avec eux, et Jésus faisait quoi? Il dormait. Là, ce n'est pas le même épisode, ils sont là, ils sont tout seuls, Jésus n'est pas avec eux, et là, comment il va y avoir panique à bord. Mais regardez avec moi dans Matthieu au chapitre 14, au verset 24. Matthieu 14, verset 24. Il nous est dit que la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jusque-là, c'est comme dans Marc. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit, lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Là, cette partie-là, elle n'apparaît pas dans Marc. Ce que Pierre va dire là. Mais avant cela, il est dit que là, ils étaient battus par les flots. Le mot dans le grec, là, à l'origine, veut dire qu'ils étaient malmenés. Les vagues frappaient avec une telle violence qu'ils craignaient de mourir. Rappelez-vous qu'ils sont dans une barque. Ils sont pas sur un navire, ils sont pas sur un paquebot. Ils sont dans une barque. Ils sont là, ballottés de part et d'autre. Il est dit que Jésus, qui était resté, Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de mal à ramer. Jésus est là, sur le bord, et puis il les regarde et il voit qu'ils ont beaucoup de mal à ramer. Rappelez-vous aussi qu'ils sont fatigués. C'est tout de suite après la multiplication des pains. Ils ont dû faire la distribution là, à plus de 5000 personnes. Ils sont fatigués. Et ils n'ont pas eu le temps de se reposer. Et là, il faut qu'ils rament. Le texte nous dit que c'est environ à la quatrième veille de la nuit. Ça ne nous parle pas beaucoup. Et il est entre 3h et 6h du matin. Entre 3h et 6h du matin. Et là, il est dit que l'âme, Jésus, se décide à aller vers eux. Il a attendu ce temps-là, et maintenant il va vers eux. Ils étaient sur la mer depuis le soir, alors imaginez le nombre d'heures. Et ces pêcheurs qui sont là de profession n'ont pas réussi à beaucoup progresser. Jean nous dit qu'ils ont parcouru 25 ou 30 stades, dans Jean 6, 19, c'est-à-dire 6 kilomètres environ. Alors que le lac sur lequel ils étaient mesurait 13 kilomètres. Ça veut dire que, au bout de tant d'heures, ils sont à peine arrivés à la moitié du lac. Et ils sont là, ils sont exténués. Et là, la tempête ne s'est pas calmée. Il est entre 3h et 6h du matin. Les vagues menacent de les faire chavirer, etc. Alors, tout le cocktail est là pour désespérer. Et là, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et là, en le voyant, il croit que c'est un fantôme. Alors, vous voyez que déjà à cette époque-là, on parlait déjà des fantômes. Mais pourquoi les fantômes? Parce que ils voient tout simplement quelqu'un marcher sur la mer, et on sait bien que personne ne peut marcher sur l'eau. Alors ils pensent que c'est un fantôme. Vous savez, ça m'a parlé ça, en voyant que Jésus marche sur les eaux. Jésus, c'est le part que Jésus domine sur sa création. Jésus domine sur toutes choses, même sur les circonstances de vos vies. Jésus est maître de ça. Et il va leur dire, rassurez-vous, c'est moi. Et là, Pierre va dire, ah Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Mais dites-moi, si je vois quelqu'un, je vois le visage là de Brigitte par exemple, si je vois que c'est elle, est-ce que j'ai besoin de lui dire, si c'est toi, viens? Est-ce que j'ai besoin de dire ça? Ah non, je vois que c'est Brigitte. Alors pourquoi Pierre a eu besoin de dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne? Eh bien, tout simplement, parce que certainement que Pierre ne voyait pas le visage de Jésus. Il a reconnu la voix, Jésus qui lui dit, mais n'ayez pas peur, c'est moi. Il a reconnu la voix, mais il ne voit pas le visage. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Parce que rappelez-vous, il est entre 3h et 6h du matin. Il ne fait pas jour. Ses oreilles reconnaissent la voix, mais ses yeux n'arrivent pas à distinguer. Il fait encore sombre. Et j'ai été faire mes recherches. Et là-bas, à l'endroit où il se trouvait, Jésus venait de l'Est, des collines de l'Orient. Et là où se lève le soleil, entre 5h47 et 6h du matin, là-bas en Israël, de ce côté-là. Ah, les premières lueurs du jour sont là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, venant de ce côté-là, le soleil, même pas encore se levait, était dans son dos. Et vous avez déjà remarqué ça. Quand quelqu'un vient là, il y a la pénombre, la lumière est derrière, et bien souvent, c'est sombre là et on ne voit pas la personne. Et là, on commence à comprendre, on n'aperçoit qu'une silhouette. D'où l'hésitation de Pierre. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Mais dites-moi, puisque Jésus allait vers eux, pourquoi Pierre n'a pas attendu que Jésus arrive et vienne tout simplement dans la barque? Que dire? C'est que je vienne. Alors souvent, et moi le premier, j'ai souvent pensé que Pierre il voulait vivre quelque chose. Pierre, il voulait vivre un miracle. Ouais, il voit Jésus marche sur les eaux, où il pense, et lui aussi veut vivre le miracle. Souvent, on a pensé, et j'ai pensé ça. Mais en regardant ce texte dans les trois évangiles, on remarque que ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Rappelez-vous que ils sont en plein péril. Ils sont en plein péril, et ce n'est pas du tout le moment de demander de marcher sur les eaux. Marc 6, 48 nous dit que Jésus voulait passer à côté d'eux. En fait, moi j'ai souvent eu l'image de Jésus venant là, vers la barque, vers eux pour les rejoindre. Et en fait, ce n'est pas ça qui se passait. C'est que eux étaient dans la barque et Jésus est là, oui, les rejoignait, mais Jésus passait à côté d'eux. Et de là, Pierre voyant cela, demande à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Voyant que son maître commençait à passer, à les distancer, lui voulait aller auprès de lui. Des heures à lutter contre une tempête, l'insécurité, le froid, l'angoisse de mourir noyé, la pression. Et là, Pierre voit Jésus qui s'éloigne d'eux. Comme pour dire, mais c'est le seul moyen que j'ai pour être sauvé. Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Les choses commencent à devenir de plus en plus claires. Jésus voulait se joindre à lui, être sauvé. On pourrait dire, mais quel est, c'est un égoïste. C'est un égoïste, il pense qu'à lui. Lui, il veut se sauver. Et les autres, alors, qui sont dans la barque. Vous savez, le salut est quelque chose de personnel. Je ne peux pas être sauvé pour Jean-Élie. Jean-Élie ne peut pas être sauvé pour ma femme. Et c'est pas possible. Le salut est personnel. Ce n'est pas, on le voit que ce n'est pas la pensée de Pierre de demander à vivre un miracle. C'est pas du tout ça. Il veut se sauver de la barque qui est là en péril. La venue de Jésus lui permettait d'espérer justement d'être sauvé. Mais Pierre était quand même conscient qu'il lui fallait un miracle parce que personne ne peut marcher sur les eaux. Seigneur. Et c'est de là qu'il veut lui dire, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Parce que dites-moi, sinon, il se dit, tiens, je sors de la barque et je suis Jésus. Mais non, il savait bien que s'il sort de la barque, il coule. Et de là, Seigneur, ordonne. Il faut, avant que je puisse venir, il faut que tu ordonnes et que je vienne. Ordonner. Pierre avait déjà vu ça. Quand, dans l'autre épisode, quand ils sont dans la barque et que les vents soufflent, qu'est-ce qu'il est dit de Jésus? Qu'il ordonna au vent de se taire et le vent s'arrêta. Et donc Pierre a vu ça. Il sait que quand Jésus ordonne quelque chose, la chose se produit. Donc il savait que si Jésus ordonnait qu'il vienne, il aurait pu vivre le miracle. La Bible dit que quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive, et quand il ordonne, elle vient à l'existence. Et de là, maintenant que la parole de Jésus a été, parce que Jésus lui dit, viens maintenant. Maintenant qu'il l'a dit, il sait qu'il peut sortir de la barque. Et là, on voit le miracle qui se produit. Pierre, qui marche sur l'eau. N'est-ce pas? Mais on connaît tous, là, ce qui se passe à un moment donné. Le vent souffle, et puis, il quitte. Du regard, Jésus, il voit les éléments qui se déchaînent et lui qui vivait le surnaturel revient au naturel et là, il commence à couler, il commence à perdre pied. Et là, encore une fois, la peur l'envahit. Vous savez, la foi et la peur se mélangent mal. Et lui qui avait les yeux fixés sur Jésus jusque-là, eh ben, commence à couler, il s'écarte. De ce qui fait le centre, n'est-ce pas, de sa vie. Et puis, au verset 30, il nous a dit, il commençait à enfoncer. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un commencer à enfoncer? Alors, ok, si quelqu'un est pris dans les sables mouvants, on est d'accord. On sait que c'est progressif, la personne commence à s'enfoncer. Mais dites-moi, dans de l'eau, quand, à la piscine ou n'importe où, quand vous plongez, est-ce que vous commencez à enfoncer ou est-ce qu'on s'enfonce tout simplement? Mais on s'enfonce. Et là, le texte nous dit qu'il commença à enfoncer dans de l'eau. Et là, j'ai compris quelque chose. C'est que Jésus a permis là, un peu cette graduation là que ça se fasse comme cela pour qu'il ait le temps de dire Seigneur sauve-moi. Et Jésus lui a permis là de commencer à s'enfoncer et puis on voit comment il lui a tendu la main. Et ça c'est une leçon aussi pour nous. Une leçon pour nous dans le sens où dans nos vies il y a des moments où on sent qu'on coule. C'est pas fait brutalement mais on commence à perdre pied dans certaines choses et là, c'est le moment de dire comme Pierre, justement, c'est ce qui est écrit là. C'est cette parole-là, en fait, de Pierre qui est sur le mur. Seigneur, sauve-moi. Et immédiatement, Jésus l'a récupéré. Et il est dit que Jésus et Pierre sont ensuite retournés dans la barque. Et dites-moi, ils étaient sur l'eau, on est d'accord. Alors, comment est-ce qu'ils sont revenus à la barque? Je me dis, c'est quoi? Est-ce que Jésus a porté Pierre dans ses bras et l'a ramené jusqu'à la barque ou quoi? Ou est-ce que tous les deux certainement qu'ils ont remarché ensemble sur l'eau et jusqu'à la barque. Formidable, formidable. Des choses qui peuvent nous étonner, qui peuvent nous étonner, mais on va le voir tout à l'heure que au nom du Seigneur, tout est possible, tout est possible. Et j'imagine là, Pierre et Jésus marchant côte à côte sur l'eau, et c'est que là qu'il est dit que ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement quand ils ont vu Jésus et Pierre revenir dans la barque. Là, ils furent remplis d'étonnement en voyant le miracle. Vous croyez au miracle ? Vous croyez au miracle ? Et quand Jésus faisait des miracles, eh ben, ça étonnait les gens. Ça étonnait les gens. Regardez dans Marc, au chapitre 2 et au verset 12, par exemple, il est dit que, à la fin du verset 12, et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Par exemple, dans Marc chapitre 5 et au verset 42, il est dit « Aussitôt, la jeune fille se leva », cette fille qui était morte. « Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement ». J'aimerais terminer ces moments par un passage où les gens ont encore été étonnés. C'est dans Marc chapitre 7, pour conclure. Marc chapitre 7 et au verset 31. Marc chapitre 7, verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen. Amen. Un texte là qui peut nous étonner. Un homme qui vient là, qui est sourd, qui a la difficulté à parler. Jésus l'emmène à part, il lui met les doigts dans les oreilles. Il lui touche la langue avec sa propre salive. Quand on lit ça, on peut être étonné. On se dit, mais disons, Jésus qui fait ça, etc. Vous savez, parce que nous, des fois, on a nos conceptions. Ah, Jésus, ah, il fera comme ça, etc. Il doit faire comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que eux avaient leur conception. Ils étaient venus pour que Jésus lui impose les mains. C'est écrit. Eux, c'est ce qu'ils voulaient voir. Que Jésus lui impose les mains, etc., qui recouvre lui, qui reparle bien, et... Mais non. Vous savez, Jésus n'est pas un distributeur à miracles ou à faire comme nous, on veut. Non, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de comment il fait. Il l'emmène à part, il met les doigts dans les oreilles, avec sa propre salive, il vient toucher la langue. J'aimerais quand même rappeler que Jésus était quand même le pur. Il était quand même le pur, il était le saint. Et là, le miracle se produit. Jésus pouvait le guérir avec une parole, en une seule parole. Mais non, c'est lui qui choisit le mode opératoire. On n'impose rien à Jésus. Et ils étaient dans le plus grand étonnement. Alléluia. Dans le plus grand étonnement. Il fait tout à merveille. Alors cet après-midi, je ne sais pas de quoi vous avez besoin, mais je sais que un miracle peut se produire. Rappelez le dimanche, je crois que c'est dimanche passé, où on a parlé de cela, de la résurrection et la vie, comment Jésus peut ramener à la vie ce qui est mort. Et je me rappelle dimanche dernier, il y avait donc à l'imposition des mains un frère qui était là un frère du voyage. Et ce matin, en saluant les frères et sœurs, tiens, je vois le frère, bonjour, on me parle. Ah, mais vous étiez là. Oui, oui. Il me dit oui, j'étais là ce dimanche dernier et j'étais venu à l'imposition des mains. Il dit, vous vous rappelez? Je dis oui, je me rappelle de vous. Il dit oui, j'étais venu parce que, il dit, j'avais mal dans les jambes. J'étais venu là, j'ai mal dans les jambes. Oui, je me rappelle. Il dit, ben frère, il dit, je me rappelle, vous avez prié? Et il dit, ben frère, il dit, maintenant ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Et il a comme ça, il tape comme ça, regardez, ça va beaucoup mieux. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, au verset 14, disant, qu'y a-t-il d'étonnant venant de l'Éternel? Qu'y a-t-il d'étonnant venant de l'Éternel? Et ça, il était question de Sarah, qui était stérile, âgée, et que Dieu a donné un bébé. Qu'y a-t-il d'étonnant? Alors, cet après-midi, ne nous étonnons pas si des choses se produisent, des miracles, des guérisons, des choses, parce que Dieu est là, et Dieu peut le faire. Amen. On incline nos têtes quelques instants. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Oh, tu es merveilleux. Oui, Seigneur, ils avaient raison de dire que tu fais tout à merveille, Seigneur. Alléluia. Tout ce que tu faisais, Seigneur mon Dieu, était extraordinaire, était magnifique, splendide. Et encore aujourd'hui, Seigneur, tu fais tout à merveille. Cet après-midi, je crois que tu peux et que tu veux faire des merveilles, Seigneur. Soit dans une vie, dans une circonstance, dans un corps, quel que soit, Seigneur. Je m'adresse au Dieu qui fait des merveilles. Oh Jésus-Christ, c'est toi qui as été un crucifié pour nous. C'est toi aussi qui es ressuscité, Seigneur. Nous voulons encore cet après-midi nous approcher de toi, Seigneur mon Dieu, dans la foi, Seigneur mon Dieu. Nous attendons à toi. Alléluia. Comme Pierre s'attendait à toi, Seigneur mon Dieu. Mais nous ne pouvons pas regarder autour de nous aux choses, mais garder les yeux fixés sur toi, Seigneur mon Dieu. C'est aussi de vivre le miracle. Alléluia. Et alors que nos sœurs peut-être pourront vous introduire dans un chant, et bien si vous avez besoin de la prière, si vous avez besoin de quelque chose, ben simplement, vous pouvez vous approcher et on priera ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui encore. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.